se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
On est là jusqu'à 10h. C'est le week-end des experts, c'est l'automobile. Un bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Jean-Luc toujours à mes côtés. Tout à l'heure, on va revenir sur ce confinement. Qu'est-ce que ça change pour l'automobile, tiens, le confinement, Jean-Luc ?
Oui, puis vous avez posé plein de questions d'ailleurs sur Direct Studio. Bon, la principale qui revient, c'est les auto-écoles. Certes, on pourra faire passer le permis de conduire, mais ça sert à quoi si on peut pas prendre de cours de conduite ? Mais François pourra peut-être le passer, en profiter justement, parce qu'il n'y aura pas grand monde à l'examen, hein ? Comme vous avez un petit peu d'expérience quand même. Je vous ai vu encore vous entraîner tout à l'heure à taper les poteaux dans le parking en bas, donc ça devrait être bon. Vous connaissez tous les recoins du parking, en fait. C'est surtout les pare-chocs de votre voiture.
Surtout les pare-chocs qui les reconnaissent. Vous n'êtes pas gentil. Mais pour qui vous me faites passer, vraiment ? Et puis, je vous le disais, toutes vos questions auto au 32-16. Tout à l'heure, on retrouvera aussi notre question pas si bête. Qui peut emprunter un sens interdit avec la mention « sauf riverain » tiens ?
Tiens, « sauf riverain », ça veut dire quoi ? Voilà. Est-ce qu'il faut habiter au bord d'une rivière pour être riverain ? Non, mais c'est quoi ? Vous êtes dans une rue adjacente ? Vous êtes riverain ou pas riverain ?
Eh oui.
Non, mais c'est des vraies bonnes questions. Exactement. Vous tombez sur la police, vous êtes dans ce fameux sens interdit.
Qu'est-ce qui se passe ? Comment j'explique ?
Est-ce que vous prenez un PV avec 4 points ? Parce que c'est 4 points sens interdit quand même.
C'est pas vrai. C'est un sens interdit, c'est assez violent. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais d'ici là, vos questions, 32-16. Et c'est Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour Philippe.
Je vous remercie pour la super émission que j'écoute depuis de nombreuses années. Et je vous sollicite concernant un achat d'un véhicule d'occasion. Nous avons actuellement une mini 4 places. Nous voudrions prendre un GLA d'occasion ou un mini Clubman. Alors, ça serait un véhicule essence, bien sûr, et avec un kilométrage normal. Et je voudrais savoir la fiabilité de ces deux véhicules.
Alors, attendez, un kilométrage normal, qu'est-ce que vous appelez un kilométrage normal ? Vous voulez l'acheter d'occasion, hein, c'est ça que je comprends.
Oui, tout à fait d'occasion.
Et qu'est-ce que vous appelez un kilométrage normal en occasion ?
Moins de 50 000 km.
Ah ouais, parce que j'allais vous dire, sur certains véhicules, un kilométrage normal à 50 000 km, ça veut dire que vous êtes en panne. Hein, on va pas parler des Renault 1 litre 2 TCE, sinon je vais me fâcher avec Renault, donc je l'ai pas dit. Voilà, donc ça c'est un kilométrage normal à problème. Et puis il y a d'autres voitures à 150 000 ou 200 000 ou 300 000 km, vous avez encore de la marge. Donc c'est donc kilométrage normal. Alors là quand même, Clubman, GLA, vous êtes pas tout à fait dans la même catégorie de véhicules. C'est parce que vous étiez déjà sur une Mini que vous avez envisagé le Clubman ?
Oui, tout à fait. C'est mon épouse qui a une Mini. Et,
ah oui.
Elle a quitté la Mini.
Ah bah oui.
Son cœur balance sur la Mini plutôt.
Bah, c'est, en matière de confort, le GLA, ça sera quand même la catégorie au-dessus. Hein. Donc je ne sais pas quel type de parcours elle fait.
Non, elle fait beaucoup de la ville. Beaucoup de ville.
Beaucoup de la ville, voilà. Donc bon, essence, on est d'accord ?
Oui, tout à fait.
Hein ? Donc on fait beaucoup de ville. Après, je vais essayer de lui vendre le GLA, parce que perso, je préfère le GLA. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le Clubman, hein. Attention. Mais je préfère le GLA parce que, finition, alors quoique, ce n'est pas la meilleure Mercedes, hein, franchement. Mais esthétiquement, mon cœur va plutôt de ce côté-là. On a une position un peu plus élevée. Si elle fait de la ville, c'est vrai qu'on a. Alors, même si, en ce moment, les SUV sont montrés du doigt en disant attention, les gens roulent avec des SUV en agglomération, c'est pas terrible, gna gna gna. C'est vrai qu'on se sent un petit peu au-dessus de la foule. C'est plus agréable et on se sent plus en sécurité, même si parfois, c'est pas tout à fait le cas. C'est un crossover qui est dérivé de la classe A. Bon, il en a les qualités, il en a les lacunes aussi. Alors, elle veut une boîte automatique, j'imagine, aussi.
Oui, la boîte automatique, oui. On t'en prend bien la boîte automatique. Mais apparemment, il n'y a pas des bons retours.
Ah bah non, sur la 7G DCT de Mercedes, malheureusement, il n'y a pas... en termes de fiabilité, c'est pas terrible, terrible. Donc, on risque, sur ce point-là, de revenir sur la Mini Club Man. Bon, j'aurais essayé, parce que je préfère le GLA, mais bon, on va revenir sur une Club Man. C'est vrai que, en plus, vous aurez plus de choix, parce que le GLA, il n'y en a quand même pas eu beaucoup, beaucoup de vendus, donc vous aurez plus de choix sur une Clubman que sur un GLA.
D'accord.
Mais ça restera, comme je vous disais, comme pour moi, parce que peut-être que j'ai vieilli, en fait. Aujourd'hui, le confort, c'est ma priorité, et le GLA, c'est plus confort qu'un Clubman. Bon, voilà, maintenant, Clubman, c'est bien. Hein.
D'accord. Et au niveau fiabilité, l'un et l'autre, ça serait non plus en.
Vous voulez quoi
pour le GLA, c'est ça.
Ouais, mais alors qu'est-ce que sur le Clubman, quelle motorisation vous aviez envisagé?
On en a vu d'occasion. On avait un 75. Apparemment, la ouais. Clubman sortirait qu'en 102 chevaux.
Ouais. En fiabilité, ça sera mieux le 1,6 litre T, 156 chevaux. Donc le 200 sur le GLA. Là, pour le coup, on revient chez Mercedes.
D'accord. Et en 1800, parce qu'on a retrouvé une annonce en 1800, est-ce qu'il est pas mal? 122 chevaux, bon, ça reste correct. Hein.
Je peux pas vous dire. Je vous D'accord. mentirais si je vous disais, parce que malheureusement, je sais pas.
D'accord.
Donc, vous avez autant de questions après être intervenu qu'avant. Ça arrive parfois, ça. En fait. Ça arrive parfois. Je suis désolé, Philippe. Je suis désolé.
Bon. Bon, on fait une option donc sur un plus la Clubman, c'est ça.
Ouais, plus la Clubman en fait.
D'accord.
Parce que c'est la boîte automatique en fait qui emporte le truc. Parce que la boîte auto qu'il y a sur le GLA est pas extraordinaire en fiabilité. Mmh. Donc si elle fait que de la ville.
Bon. Voilà Philippe, à bientôt. Bonne journée. Dimanche.
Bon dimanche à vous, au revoir.
Voilà, toutes vos questions auto, 32-16 jusqu'à 10h, Jean-Luc est à mes côtés. Jean-Luc, on retrouve notre question pas si bête.
Si je vous dis, con vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Et Jean-Luc, notre question pas si bête de ce dimanche. Qui peut emprunter un sens interdit avec la mention « sauf riverain » ?
Bon, déjà, on va essayer de savoir ce que c'est qu'un riverain. Bon, un oui, riverain. Oui, non, mais un riverain. On va dire, alors, c'est des propriétaires, des locataires. Alors, est-ce que squatter, ça marche? Non. Vous allez comprendre pas. Pourquoi plus loin, ça marche pas. Alors, c'est donc ces personnes hein, qui habitent sur l'axe considéré, c'est-à-dire dont les propriétés débouchent sur l'axe considéré. C'est-à-dire, en gros, si sur votre taxe d'habitation, vous avez l'adresse de la dite voie, vous êtes un riverain. Mmh. Si vous habitez dans une rue qui est adjacente, vous n'êtes pas un riverain.
D'accord.
Vous habitez à côté.
J'habite à côté, je ne suis pas riverain.
La rue d'à côté, mais vous n'êtes pas riverain.
Okay.
Vous pouvez considérer, c'est-à-dire, mais attendez, je suis du quartier, mais vous n'êtes pas riverain. Donc ça veut dire que, en gros, si vous empruntez cette voie qui est indiquée sans interdit, sauf riverain, et que vous êtes contrôlé par la police, vous serez verbalisé. Alors, attention, parce que normalement, quand on emprunte un sens interdit, vous qui le faites assez souvent, François, vous savez, hein, c'est quoi? C'est amende de quatrième classe et 4 points.
C'est 4 points.
4 points sur le permis de conduire, ça fait chaud. Mais là, comme vous n'êtes pas dans une circulation en sens interdit, c'est une voie réservée aux riverains, donc c'est pas un sens interdit, puisque des gens l'empruntent. En plus, une rue, souvent, il y a deux sens de circulation.
Ouais, ouais.
Donc il y a forcément un sens qui va être autorisé. Si c'est écrit « sens interdit sauf aux riverains » de chaque côté, on va y venir un peu plus loin, vous allez voir, c'est un abus. Mais donc là, le procès verbal, normalement, il doit être requalifié en usage d'une voie réservée. Donc vous n'êtes
donc c'est plus...
C'est plus 4 points.
C'est plus 4 points.
C'est juste un PV tout bête.
Juste voilà, un PV, voilà.
Donc, il faut faire bien attention à ça parce que la police souvent va un peu vite en besogne et va vous verbaliser pour sans interdit. Alors que c'est pas du tout ça. Alors maintenant, il y a beaucoup de sans interdit, sauf riverain, qui sont abusifs. Pourquoi? Parce que pour restreindre l'usage d'une voie publique, il faut une décision motivée. Donc en mairie, la décision, vous devez pouvoir trouver cette décision motivée. Mmh. S'il n'y en a pas, le panneau est illégal. Or, dans la grande majorité des cas, cette décision motivée n'existe pas. On met un panneau sens interdit sauf aux riverains parce qu'il y a un adjoint au maire qui habite dans la rue et qu'il a envie d'être tranquille et qu'on veut détourner le trafic pour pas que ça passe par là. Non, mais je prends. Là, évidemment, je grossis le trait.
Oui, bien sûr.
C'est pas toujours ça.
Heureusement, d'ailleurs.
Donc, vous pouvez, s'il n'y a pas de motivation et que vous estimez que le panneau est abusif, vous pouvez avoir recours au tribunal administratif pour annulation. Et donc, si vous êtes verbalisé, ça peut être intéressant, vous êtes verbalisé dans ce fameux, c'est assez rare quand même, mais vous êtes verbalisé dans ce fameux sens interdit sauf aux riverains, vous décidez de contester le PV, vous allez voir en mairie s'il y a cette fameuse décision motivée, s'il n'y est pas, vous demandez donc l'annulation au tribunal administratif, bon, ça prend un peu de temps, et ensuite, vous pourrez faire annuler votre PV.
Très bien. Voilà, concernant cette question pas si bête. On va revenir dans un instant sur RMC, il est 9h18. On va retrouver la météo. Et puis je vous rappelle ce qui nous attend. Hein. Notre rendez-vous sur le vif tout à l'heure, le confinement. Qu'est-ce que ça change pour l'automobile? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire avec son auto? On reviendra sur la polémique des auto-écoles. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas très clair encore, hein, Jean-Luc, aujourd'hui.
Bah, ce qui est clair... que je pense avoir compris moi, mais on aura des précisions tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas prendre de cours de conduite, mais on peut passer son permis.
Alors, on ne peut pas prendre de cours de conduite, mais on peut passer son permis, d'accord. Oui, mais si on ne peut pas prendre de cours de conduite, c'est difficile de passer son permis.
Ouais.
On est d'accord.
Bah oui.
Bon. Il va falloir dépatouiller tout ça, quand même.
On va dépatouiller, oui.
Allez, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant avec vos questions en priorité, bien sûr. A tout de suite, après la météo.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
9h25, le retour du week-end des experts jusqu'à 10h avec Jean-Luc Moreau. Et puis juste après, vous retrouverez les paris RMC. Place à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Hein, on va se faire beaucoup de questions, Jean-Luc, d'ici 10h. Donc profitez-en. À tout moment, vous pouvez nous joindre. Vous avez envie de changer de véhicule. Vous avez un problème avec votre véhicule actuel. Vous voulez évoquer un sujet d'actualité lié à l'auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et Yves est avec nous maintenant. Bonjour Yves.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Yves.
Bienvenue.
Voilà. Donc j'ai un problème de révision de ma voiture. Sur le carnet d'entretien, j'ai acheté une Citroën C3 Cross fin septembre 2019. Et donc normalement, il propose une révision à un an. Et moi, j'ai pratiquement pas roulé avec cette voiture parce que depuis le mois de mars, je l'ai utilisé entre septembre et mars relativement peu. Et depuis le mois de mars, je ne suis plus redescendu sur la Côte d'Azur où j'ai laissé cette voiture à mon appartement de villégiature. Donc, je voulais savoir, un, est-ce que je risque de perdre la garantie si je ne faisais pas cette assurance dans les délais?
Alors, attendez, vous m'avez dit 2009, vous êtes...
2019.
Ah bon, ah ouais, parce que là j'allais dire 2019.
Elle n'existait pas en 2009.
Là, ouais. C'est pour ça que j'étais étonné. Je me disais, en plus, une voiture qui a 11 ans, bon, qu'on fasse la révision tous les deux ans, c'est pas grave. Alors, oui, donc, votre voiture, elle n'a pas roulé pratiquement.
Elle est dans le sud.
Vous êtes confiné comme tout le monde, vous ne pouvez pas y aller pour faire la révision. Est-ce que vous avez peur de perdre la garantie commerciale de deux ans si vous ne respectez pas les délais? Vous savez que les constructeurs, lors du premier confinement, ont autorisé, en fait, ont rallongé les délais de garantie qui étaient liés, en fait, à cet arrêt de circulation des véhicules et surtout à l'impossibilité pour de nombreux automobilistes d'aller dans les concessions pour faire leur révision. Donc, il est possible qu'à nouveau, ils allongent le délai de... Alors là, pour l'instant, on est confiné pour 4 semaines, mais ça va peut-être être plus long, qu'ils allongent la garantie qui correspond à la durée de confinement qu'on va avoir. Je n'en sais rien pour le moment, ils n'ont pas pris la décision, mais c'est possible. Mais toutefois, à partir du moment où on va être déconfiné, moi je vous conseille quand même le plus rapidement possible, c'est de prendre rendez-vous. Alors là, les concessions, enfin les les concessions vont être fermées, les showrooms vont être fermés, mais par contre, les ateliers sont ouverts. Donc, vous pourrez prendre, à partir du moment où vous pourrez vous déplacer dans votre résidence secondaire et emmener votre voiture au garage, c'est de prendre rendez-vous le plus rapidement possible pour ne pas trop dépasser ce délai d'un an. Sinon, effectivement, vous perdez. Si un jour vous avez un problème, parce que c'est uniquement en cas de problème, si un jour vous avez un souci, même, vous savez, il y a ce qu'on appelle la garantie légale des vices cachés qui court jusqu'à 5 ans. Si vous avez dans le délai de 5 ans un gros problème avec la voiture et que l'entretien n'a pas fait en temps et en heure, le constructeur pourra vous opposer ça en disant, vous avez vu là, à telle date, en 2020, vous avez dépassé de 3 mois. Donc on estime que l'entretien n'ayant pas été respecté, on est en droit de vous supprimer cette garantie des vices cachés.
Voilà. Même si je fais secondairement des entretiens à 2 ans, 3 ans et 4 ans, tout à fait normalement.
Oui, mais vous ne les avez pas fait encore là, pour le moment. Les ans pendant la garantie commerciale et, oui. Et ça reste tous les ans après. C'est moi qui vous pose la question là.
Oui, ça reste tous les ans après.
D'accord. Voilà,
je crois. Mais si par exemple, je ne la fais pas maintenant, je la fais par exemple 6 mois trop tard. Et que je fais après les révisions tout à fait normalement.
Non, mais à partir du moment où vous avez sauté une échéance, c'est cette échéance-là qui comptera pour eux. Donc ils vous diront, on est désolé, vous avez dépassé. Alors, le contexte actuel fait qu'il y aura sans doute plus de souplesse. Maintenant, ça sera constructeur par constructeur. Donc je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que PSA va dire, vous avez dépassé 2 mois ou 3 mois. Donc, vu le contexte, on prend quand même en garantie. Je n'en sais rien.
D'accord.
Je n'en sais rien. Okay. Il y aura sans doute des décisions qui vont être prises. Je vous l'ai dit, à l'issue du premier confinement, les constructeurs, tous les constructeurs ont décidé de prolonger les garanties. Donc ça, c'est OK, c'était acté. Maintenant, avec ce nouveau confinement, est-ce que ça va être prolongé ou pas? On n'en sait rien.
Bon, mais éventuellement, je pourrais demander à quelqu'un d'aller faire ma révision.
Oui, bien sûr.
C'est
totalement ouvert. On en parlera d'ailleurs, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Oui. On aura avec nous Francis Bartholomé, qui est le président du Conseil national des professions de l'automobile, et on va évoquer ça, ce qui est ouvert ou fermé, ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pendant ce confinement. Donc, vous nous écoutez, vous aurez la réponse très précise à votre question.
Avec un focus sur les auto-écoles, promis, on en parle tout à l'heure.
Voilà.
Jean-Luc, vous avez une moto ou pas?
J'en ai 3.
Vous avez 3 motos, et oui, vous avez je ne sais pas combien de voitures et je ne sais pas combien de motos. Et peut-être qu'il y a une petite révolution qui est en train de se profiler pour les motos.
Exactement, alors on a eu beaucoup de questions d'auditeurs assez régulièrement. Quand on parle d'éthanol, il y a toujours un auditeur qui dit « Oui, vous parlez d'éthanol pour les voitures, à quand des boîtiers pour équiper les motos ?» Alors, équiper les motos évidemment les plus récentes, puisque les motos un peu plus tardivement ont été équipées de systèmes d'injection. Il y a eu des motos à carburateur encore jusqu'au milieu des années 2000. Donc on peut pas équiper une moto à carburateur d'un boîtier éthanol. En revanche, une moto moderne avec un système d'injection,
là c'est possible.
Techniquement c'est possible. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à travailler sur ce dossier-là et j'ai croisé la semaine dernière Olivier Bartz, qui est directeur général et fondateur de Green System Automotive à Marseille. Il est venu me voir, il m'a dit voilà, je suis très content. Il était très content de me voir. Il était un petit peu déçu de pas voir François Sorel, mais il était content de me voir. Et surtout, il m'a parlé de ce chouette projet de sa start-up de développer des boîtiers éthanol
pour les motos. Bonjour Olivier.
Olivier, bonjour.
Bonjour messieurs, et merci de donner la parole aux motards sur RMC.
Voilà, c'est vrai que c'est assez rare. On me demande souvent, on me dit pourquoi ne pas donner la parole aux possesseurs de motos. Bon, ça y est, c'est fait. Alors, l'idée vous est venue comment à vous de développer ces boîtiers éthanol pour les motos?
Écoutez, c'était vers l'année 2017 où on a commencé à voir que la technologie flex-fuel revenait en grâce dans le secteur de l'automobile via la légalisation des boîtiers de conversion pour les autos. Et avec le cofondateur de la société, Olivier Francini, qui est le directeur technique de notre société, on s'est posé la question de savoir s'il était possible de faire transiter la technologie flex-fuel qui existe et qui est bien connue dans le domaine de l'auto vers la moto. Donc on a fait une étude technique et effectivement, c'est sous réserve de certaines précautions, il est tout à fait possible d'équiper des machines, on va dire, de moins de 15 ans équipées d'une injection électronique d'un système flex-fuel qui permettrait de les rendre beaucoup plus éco-responsables, mais c'est pas à vous que je vais faire l'article.
Oui, les avantages de l'éthanol, je pense que ceux qui nous écoutent les connaissent déjà.
Alors, qu'est-ce qui
Juste une chose, messieurs. Nous avons Emmanuel, oui. au 32-16, oui. qui souhaitait témoigner parce qu'il est motard. Il a une info à nous annoncer. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour à vous.
Bienvenue, Emmanuel. Vous êtes boucher, c'est ça ?
Oui, je suis artisan boucher, ouais.
Et vous travaillez là, actuellement ?
Je suis ouvert.
Bon, bah, c'est gentil,
entre deux clients.
Voilà, exactement. Faites attention parce que Jean-Luc mange au moins deux côtes de bœuf, hein, à chaque.
Je croyais que vous alliez dire Jean-Luc, il est bouché aussi, mais c'est les oreilles, lui.
Non, c'est pas ça.
Je monte très bien à Paris, vous en amenez une, mais avec la mairesse que vous avez, c'est compliqué.
Ah ouais.
Oui, ça c'est
là,
sûr.
Là, les cadeaux, hein.
Vous êtes où?
Je suis sur le bassin d'Arcachon.
Ah oui, ça fait loin. À vélo, c'est pas gagné, hein, quand même.
Avec la moto, c'est pas un souci.
C'est pas un fil. Alors, justement, vous êtes motard, racontez-nous. Votre histoire avec l'éthanol.
Alors, moi, je suis motard depuis quasiment toujours. J'ai 55 ans et je roule tous les jours, toute l'année. Et donc, j'ai beaucoup roulé BM. J'ai commencé le bioéthanol, bonne question. Ça doit faire une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et à l'époque, les boîtiers n'existaient pas. Et donc, je fais comme tout le monde. Hein. Je regarde à la pompe, je vois bioéthanol, je dis tiens, voilà, au prix où c'est, donc c'est intéressant. Et donc, j'ai essayé, comme souvent Jean-Luc le dit, vous savez, par coupure, mettre un petit peu de bio et un petit peu d'essence à côté. Et ça a très, très bien marché. Je suis donc sans modif. Hein. Moi, je suis ni reproc, ni boîtier. Je suis à 75% de bio.
D'accord. Donc, vous roulez à l'éthanol avec votre BM et ça marche plutôt bien.
Ça marche très bien.
Et depuis combien de kilomètres, Emmanuel ?
J'ai dû cumuler une centaine de milliers à peu près.
Ah d'accord.
Ah ouais.
Ouais, donc il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de sujet quoi. Ça fonctionne.
Ouais, voilà. Alors, ouais. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est que bon, chez moi, il fait pas très très froid. Hein.
Ouais, c'est les démarrages à froid l'hiver.
Voilà. Hein. Alors, ouais. La nuit, elle couche au garage chauffé, donc il y a pas de souci. Le soir, quand je pars du boulot pour rentrer, bon, il peut faire un peu frais des fois, et des fois, c'est vrai qu'il faut un ou deux coups de démarreur en plus.
D'accord.
Mais excepté ça, zéro souci quoi.
Ouais. Bon, bah, écoutez, ça.
Et en termes de performance, de puissance.
Alors j'ai tout testé puisque j'ai essayé de faire ça graduellement et, et d'optimiser sur mon ancienne parce que l'anciennement j'avais une 50 RT donc avec quelques années hein. Elle plafonnait un petit peu. Alors j'ai toujours testé full charge, c'est-à-dire ouvert en grand évidemment pas à fond de vitesse parce que
ouais, c'est pas forcément une bonne idée Olivier hein, parce que si vous n'avez pas d'adaptation vous allez être trop pauvre et full charge c'est un coup à percer un piston donc
mais j'ai aucun souci, aucun voyant, rien du tout ouais. Et aucune décharge de rien en fait.
D'accord.
Voilà. Bon, en tout cas,
ça a toujours parfaitement bien marché et là j'ai une un peu plus récente qui est j'ai une cassage GTL en fait hein. Et ça marche parfaitement bien. Hein.
D'accord, très bien.
Je dirais même plus que je gagne un peu plus de couple en bas.
En plus. Bon, Emmanuel, merci pour ce témoignage. On vous laisse repartir avec vos clients. Faites attention à l'Angus, hein, s'il vous plaît. Ne la vendez pas n'importe comment.
Si jamais je passe sur Paris, je penserai aux côtes de bœuf pour Jean-Luc.
Vous pouvez penser à François aussi.
Ouais,
hein.
Ça, moi aussi, hein, je suis pas vegan encore, hein, donc vous pouvez y aller.
Non,
c'est
de côté, ça vaut rien.
À bientôt.
Merci à vous, bon dimanche à vous. Au revoir.
Au revoir. Olivier.
C'est pour dire que sur certains modèles, ça a l'air de fonctionner.
Ça fonctionne sans boîtier, oui, mais c'est mieux d'avoir un boîtier quand même. Olivier, l'adaptation, justement, d'un boîtier sur une moto, c'est différent d'une voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux?
Ah, c'est essentiellement, bon, d'abord c'est surtout sur la variété technologique des motorisations qui s'offrent à nous, donc il y a besoin d'avoir des réglages un peu spécifiques. Et il y a aussi tout ce qui est problème de compacité, d'exposition aux intempéries, donc c'est plutôt au niveau de l'intégration d'un boîtier électronique dans un sous-système de roues qui est plus exposé aux intempéries, aux phénomènes vibratoires, phénomènes de chaleur, donc ça demande quand même un certain savoir-faire. Et par ailleurs, le témoignage précédent était très intéressant, mais il faut poser la question de rouler qu'un dispositif légal.
Oui, enfin, oh non, lui, en l'occurrence, il n'a pas de dispositif illégal, puisqu'il met juste un carburant qui n'est pas adapté à son moteur. Mais c'est vrai qu'il y a des boîtiers qui se vendent sur Internet pour les motos, et aujourd'hui, on est d'accord, c'est illégal. Hein.
C'est d'ailleurs
ce qui coince, c'est qu'il n'y a pas d'homologation possible pour le moment sur les boîtiers. Vous y travaillez, vous ?
Exactement, c'est ce sur quoi nous travaillons. Et il faut savoir que ce que vous pouvez trouver sur le marché, souvent, c'est un boîtier auto qui est simplement rebadgé. Donc, on n'a pas pris en compte toutes les contraintes d'un deux-roues motorisé. Donc, ça fait deux ans qu'on travaille, ça fait deux ans qu'on est en R&D. On passe aujourd'hui en phase d'industrialisation de notre produit. Ça demande quand même une certaine technicité, même si la technologie depuis des années, vous en parlez, elle est connue quand même depuis des années et elle fonctionne très bien dans de nombreux pays.
Alors, vous m'aviez dit quand même qu'à la différence des boîtiers qui sont sur les voitures, vous auriez un capteur pour analyser le carburant beaucoup plus performant.
Voilà, nous, on travaille aussi avec un capteur de seconde génération, hein, qui est de type spectrométrique, qui permet d'avoir une analyse beaucoup plus précise et beaucoup plus efficiente du carburant, du blême carburant qui circule à l'intérieur de la moto et qui va nous permettre non seulement d'être plus efficient sur la conversion au biocarburant, mais aussi de s'orienter vers les nouveaux e-carburants dont vous aviez d'ailleurs parlé à l'antenne il y a quelques temps, grâce à notre calculateur, de permettre la combinaison du calculateur et du nouveau capteur de carburant, d'avoir une vraie co-optimisation qui permettra aussi de réduire la surconsommation inhérente à cette technologie.
D'accord. Bon, bah, et vous nous avez mis l'eau à la bouche. Le problème, c'est quand est-ce qu'on peut espérer voir ces produits arriver, être vendus en série ?
Mais écoutez, nous, on espère pouvoir arriver sur le marché en 2021 en fonction des évolutions de notre travail sur l'homologation des boîtiers vers les motos. Et d'ailleurs, à ce titre, nous recherchons toujours des partenaires pour nous accompagner dans notre phase d'industrialisation. Parce que, comme je l'expliquais en début de discussion, nous sommes vraiment partis d'une démarche industrielle, nous sommes partis d'une feuille blanche, nous avons créé carrément notre système, nous n'avons pas simplement implémenté un système déjà existant.
D'accord. Donc, ceux qui seraient intéressés éventuellement, c'est Green System Automotive, il y a un site, il y a quelque chose ?
Tout à fait, il y a un site www.greensystemautomotives.com et sur Twitter et sur LinkedIn, nous postons régulièrement des nouvelles sur l'avancée de notre projet.
Bon, bah écoutez Olivier, on vous souhaite le meilleur succès possible et puis je m'équiperai d'un boîtier quand ça va exister.
Avec plaisir, merci de votre accueil.
Merci Olivier.
Merci Olivier.
À très bientôt, bon dimanche messieurs.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Tiens, mais puisqu'on parle de start-up, François, je voudrais annoncer, tiens, pour ceux qui voudraient participer, il y a le Grand Prix de la CF Autotech 2021 qui est organisé alors par l'Automobile Club de France et l'ESSEC, donc pas n'importe quoi, avec un jury qui est, alors je vais pas vous donner tout le jury, mais il y a Thierry Peugeot, Anne Ascension, enfin voilà, que du beau monde. Donc toutes les start-up qui ont des innovations et qui veulent participer peuvent s'inscrire à partir de maintenant. C'est juste que c'était à partir du 15 octobre l'ouverture des candidats. C'est jusqu'au 27 novembre. Il y a pas mal de prix à gagner. C'est une bonne façon, comme ce qu'on vient de faire là, de mettre le pied à l'étrier à des startups qui proposent donc des innovations technologiques dans le domaine de l'automobile. Le Grand Prix ACF Autotech 21. Voilà.
Parfait. Jean-Luc, 10h-20. On revient dans un instant avec vos questions au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure, on parlera d'automobile et de confinement. Qu'est-ce que ça change pour l'automobile, cette période de confinement ? Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire ? On en parlera avec notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, quasi 10h moins le quart, dernière ligne droite de ce week-end des experts auto. On enchaîne tout de suite avec vos questions au 32-16 et c'est Isabelle qui est là. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bienvenue Isabelle.
Bonjour à tous les deux, merci.
On vous écoute.
Voilà, j'ai une Fiat 500X actuellement, 1,6 litre cross. Et je voudrais changer, je voudrais changer pour un véhicule peut-être hybride. Donc, je trouve aussi que la capacité du coffre est un petit peu juste. Donc, voilà. Donc, je fais à peu près dans les 30 000 km par an.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît ? Parce qu'il faut commencer par ça, en fait.
Voilà. Mais ce qui me plaît, c'est j'ai vu les Toyota CHR hybrides.
Ouais, ouais.
Et alors, l'autre jour, vous aviez parlé aussi d'un hybride. Bon, la gamme au-dessus, les Lexus, alors les NX, peut-être d'occasion. Ou alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être le modèle en dessous qui était des UX.
Ouais, alors l'UX bof. En plus, vous avez besoin d'un coffre plus grand et l'UX en hybride, il a un coffre qui est rikiki. C'est juste pas possible quoi. Donc oubliez l'UX. Un NX 300h en occasion, c'est un bon choix parce que c'est une voiture fiable. Donc on peut se payer pour un budget. Alors j'allais dire modeste, ça reste quand même un véhicule qui est assez cher, hein, parce que d'origine c'est quand même un véhicule qui est assez onéreux, mais on peut se payer une belle auto, très bien finie, avec un équipement vraiment complètement complet. Complètement complet, c'est n'importe quoi en fait, hein, avec un équipement très complet, aux alentours de 20 000 euros, je sais pas quel est votre budget.
Oui, autour de 20, 25 000, ouais, c'est ça. 28 000. Donc,
bon, évidemment ça c'est une grosse voiture, hein. Par rapport à votre 500X, c'est une voiture qui est quand même un peu plus encombrante.
Voilà, c'est beaucoup plus gros. Et au point de vue consommation, parce que je suis quand même sur un diesel, bon, je roule beaucoup, donc je fais dans les 30 000 km. Au point de vue consommation, un hybride.
Mais si vous faites quoi comme type de parcours ?
Ben, je fais pas mal d'autoroutes. Quand je travaille, je fais 50 km, 15 km de route, après de l'autoroute. Après, j'habite en campagne aussi, je fais Et je fais moitié-moitié, je pense.
Ouais, sur, l'autoroute, le NX300H, ça va être moins économique que votre diesel. Hein. Vous devez être en conso, quoi. Vous êtes à 6 litres sur l'autoroute.
Oui.
Voilà, bon, là, vous allez être à 1 litre de plus minimum. Par contre, quand vous allez être sur la petite route, là, ça consommera moins.
D'accord.
Bon, c'est une grosse voiture. Un CHR, ça consommera un petit peu moins. Cela
voilà,
dit,
oui,
le CHR,
par rapport au CHR.
Alors, le CHR, c'est moins agréable à utiliser quand on a la version 122 chevaux, puisqu'il est disponible en deux niveaux de puissance.
Oui, j'avais vu la version 185 chevaux.
Voilà, alors 185 chevaux, c'est beaucoup plus,
Peps, je pense.
Voilà, plus agréable à utiliser. Et surtout, comme le moteur thermique est plus puissant, on a moins ce phénomène de patinage qui est assez désagréable quand on n'est pas habitué, et vous n'êtes pas habitué, parce que vous n'êtes pas encore passé à l'hybride. Donc, vous habituerez, enfin, ça sera plus simple pour vous de passer directement sur un modèle 180 chevaux. Alors, on commence à en trouver, il y en a d'occasion déjà, hein, même si le véhicule est un peu récent. On en trouve d'occasion à des tarifs.
Oui, et j'en ai vu même à quoi, 0 km sur des
prestataires.
Je ne sais pas si je peux les citer ou pas, mais.
Bon, pourquoi pas.
Voilà, sur Aramis.
Ouais.
C'est intéressant, les 185 chevaux.
C'est peut-être plus la solution, c'est peut-être plus ça, pour avoir un véhicule moins encombrant, parce que un NX300H, ça reste quand même une grosse auto, c'est bien quand on se déplace en famille. Maintenant, si c'est pour une utilisation quotidienne, pour faire des trajets de travail, c'est pas la peine de traîner un engin qui fait 2 tonnes. Plus un CHR en version 180 chevaux.
Isabelle, merci pour votre appel. Jean-Luc,
François, avant, on a beaucoup de messages qui nous disent il y a déjà Thornbike qui fait des boîtiers éthanol pour les motos. On va repréciser que ce qu'on évoquait à l'instant, c'était le travail pour faire homologuer ces boîtiers.
Voilà, c'est ça.
Puisque aujourd'hui
des boîtiers.
Ça existe, des boîtiers pour les motos, mais pour l'instant, c'est interdit de les utiliser. On n'a pas le droit de les utiliser.
Voilà. Alors que là, la solution de notre invité tout à l'heure,
c'est justement de la faire homologuer. Ils sont en train de travailler pour l'homologuer.
Jean-Luc, confinement automobile, on en parle avec Francis Bartholomé qui est avec nous. Bonjour Francis.
Bonjour Francis.
Oui, bonjour à tous les deux.
Voilà, alors on a plein de questions. Alors on va commencer par une parce qu'on est débordé depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi, les gens veulent passer leur permis d'un coup là. Les auto-écoles ouvertes, fermées, on peut passer son permis, oui, non?
Alors les auto-écoles ne sont pas ouvertes pour l'instant. Hein, simplement par contre, le paradoxe c'est que les candidats peuvent passer leur permis puisque tous les diplômes doivent être passés. Ce qui veut dire que pour aller passer son diplôme, il faut que l'auto-école l'emmène avec la voiture. Donc les auto-écoles ne comprennent pas trop ce qu'ils doivent faire. Pour l'instant, pour eux, c'est où ils sont ouverts et ils font passer les permis aussi, ou ils sont fermés, ils ne peuvent pas faire les deux. Là, il y a un sujet. Je pense que ça sera décanté. Vous pouvez le dire à vos auditeurs.
Ils nous écoutent, je pense.
Écoutez, ça va très vite décanter parce que là, il y a vraiment une anomalie.
C'est pour ça qu'on vous posait la question, parce que ça paraît stupide de dire on peut passer un examen alors qu'on ne peut pas se préparer à l'examen et on n'a pas de voiture pour passer l'examen.
Et on n'a pas de voiture pour y aller, surtout.
Remarquez,
c'est la voiture de l'auto-école.
Si on passe le permis à pied, on est sûr de l'avoir, finalement.
C'est vrai. Donc là, une première anomalie, mais je pense qu'elle va très vite sauter. Le ministère de l'Intérieur s'y est engagé.
D'accord, bon, c'est parfait. Les garages, je dois faire entretenir ma voiture. On avait tout à l'heure un auditeur qui nous disait, si je dépasse la date de l'entretien préconisé par le constructeur, je risque de perdre la garantie. Les garages sont ouverts pour faire les révisions, justement?
Alors, les révisions, les entretiens sont ouverts dans les garages, ainsi que les locations de voitures, ainsi que les ventes de pièces détachées, et ainsi que l'enlèvement de sa voiture neuve qui a été commandée.
D'accord. Alors, même si le concessionnaire est fermé, on est d'accord que les showrooms doivent être fermés.
Oui.
Mais si j'ai. Oui.
Pourquoi? Parce que les showrooms font partie de ce qu'on appelle les établissements recevant du public, des heures P5.
Les
heures P5 sont fermetures administratives. Alors là, bien sûr que c'est un vrai sujet actuellement, puisque vous savez très bien que dans un showroom, la quantité de personnes au mètre carré dans nos affaires est extrêmement faible. Mais bon, il y a un texte, on est légaliste, on le respecte. On essaye de faire comprendre qu'en respectant l'ensemble des mesures sanitaires et l'ensemble des mesures que nous avions mis en place lors du déconfinement, qu'a priori, on devrait être capable de pouvoir ouvrir. Mais pour l'instant, il faut dire à tout le monde, il est clair que les showrooms sont fermés. Il reste bien, je répète, la livraison des véhicules commandés, il n'y a pas de problème, il suffit de prendre rendez-vous. La possibilité d'acheter des pièces détachées, il n'y a pas de problème pour l'avoir. Avoir loué une voiture chez nous, comme chez n'importe quel loueur de voiture, il n'y a pas de problème. Et puis, l'entretien est aussi ouvert. Le vrai problème pour nous, c'est combien vos clients, ceux qui vous ont parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils vont venir en définitive? Parce que rester ouvert, ça veut dire qu'on garde le personnel dans les établissements. Et si on n'a pas du tout d'activité, on se retrouve dans une difficulté. On se pose la question. Voilà.
Qu'est-ce que je coche pour aller faire réviser ma voiture sur l'attestation d'ailleurs?
Alors ça, c'est une bonne question. A priori, le principe global, c'est que tout ce qui est autorisé à l'ouverture, vous pouvez y aller en le spécifiant sur votre bon de déplacement. Hein. Ça, c'est très clair. Parce que vous ne trouvez pas encore, vous trouvez déjà l'enlèvement de la marchandise, vous l'avez. Ça, mais aller faire réviser sa voiture, vous ne l'avez pas encore. Donc on a effectivement demandé des précisions au ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, la réponse que nous avons, c'est que tout ce qui est autorisé à l'ouverture puisse être accessible par un automobiliste ou par n'importe quelle personne. Ça, c'est
donc,
très clair.
Donc, je rajoute à la main une case en bas, révision de ma voiture, et je la coche.
Exact.
D'accord. Si je dois faire mon contrôle technique, mais que ce contrôle technique, j'ai un véhicule électrique, j'habite à la limite de deux régions, et le contrôle technique, il est dans la région d'à côté. Aujourd'hui, avec le confinement, on n'a pas le droit de changer de région avec sa voiture. Comment je fais?
Alors, la question, la réponse est assez simple. Pour l'instant, vous pouvez le faire. À partir du moment où je n'en ai pas trouvé, j'ai encore regardé avec mes équipes hier, de distance maximum, rappelez-vous, au premier des confinements, c'était 100 km. Vous vous rappelez?
Oui,
c'est pas une question de département. Là, on n'a pas trouvé de chiffres, on n'a pas trouvé de temps. Donc, a priori, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème.
D'accord, il n'y a pas de limite de déplacement.
Non. Juste, Jean-Luc, on a évoqué le sujet, mais pour qu'on soit bien clair, François nous dit, puis-je prendre rendez-vous avec mon garage pour acheter une voiture?
Alors, les contacts peuvent se faire de manière digitale ou contact téléphonique. Hein. Il est clair que le showroom, lui, est fermé, mais rien n'empêche, effectivement, il y a des gens qui vont s'organiser de telle façon pour, aussi dans l'autre sens, contacter un certain nombre de clients, et notamment des flottes d'auto. Donc, un potentiel qui cherche un véhicule aura une réponse précise dans une concession automobile. Ça, c'est très clair.
Mais Francis, si je dois prendre livraison de ma voiture et que le showroom est fermé, je prends livraison où?
Alors, bien sûr que les voitures, on a tous à peu près des lieux de livraison qui ne sont pas à l'intérieur d'un showroom. Hein. Et puis, bon, il faut quand même exploiter les termes tels qu'ils le sont. Fermeture au public, c'est clairement une autre personne. Une livraison de véhicule n'a rien à voir, si vous voulez, avec un client qui déambule dans un showroom, regarde les voitures et ainsi de suite, additionné à d'autres clients. Donc non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça va être un sujet qu'on avait très vu au premier des confinements. La seule chose avec laquelle on s'est engagé, nous, vis-à-vis de l'État, c'est qu'on respecte totalement ce que nous avions mis en place au déconfinement. Hein. Vous avez été dans les concessions, vous avez vu souvent que c'était vraiment bien fait. Hein. Et que deuxièmement, on est à fond sur les mesures barrières. Ça, c'est très clair.
Hein. On est d'accord que les constructeurs n'ont pas stoppé les chaînes de fabrication. Donc, si j'ai déjà commandé un véhicule, il va être mis en production, je pourrais être livré.
A priori, oui, bien sûr.
D'accord.
Francis, juste, est-ce que vous avez des revendications ce matin à faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qui évoluent?
Vous savez, on sent bien en ce moment qu'il y a une tendance un petit peu à être contre ce décret qui est paru le 28 octobre. Bon, en ce qui nous concerne, on a bien observé quel était le l'amendement des sénateurs. Excusez-moi. Qui souhaitait effectivement que on puisse réouvrir l'ensemble des magasins. Nous, notre avis là-dessus, si vous voulez, c'est que on préfère être légaliste. Pour l'instant, on est OK, on accepte effectivement la fermeture d'un showroom, mais bien sûr qu'on va se joindre à une certaine réflexion, disant, est-ce que vous croyez que réellement le fait de fermer un showroom chez nous fait en sorte qu'on va prolonger le virus? On a un vrai sujet, on est extrêmement protégé. Et moi, je comprends très bien la lutte qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les grandes surfaces et les petits magasins.
Oui,
mais
sûr.
Nous, l'automobile, on n'est pas concurrent par les grandes surfaces, si vous voulez. On a nos métiers bien spécifique par rapport à ça. Notre seule demande, c'est que l'ensemble de tous nos métiers puissent effectivement travailler avec cette fameuse contrainte du local, que je comprends très bien, mais qu'on peut essayer, si on est entendu sur ce point, d'avoir une ouverture possible des showrooms avec des mesures peut-être encore plus draconiennes.
Mais après, oui.
Ça nous paraîtrait éventuellement faisable.
Voilà. N'oublions pas qu'on est confinés aussi. Oui, on est confinés. Quand même, hein.
Francis, une dernière question. On a Corinne qui nous dit, voilà, je devais passer mon contrôle technique là bientôt. Est-ce qu'il y aura un report comme c'était le cas lors du premier confinement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un délai d'accorder?
Pour l'instant, la question n'a pas été posée, mais à mon avis, oui, s'il y a difficulté, il y aura un report. Ça, c'est pas quelque chose qu'on aura du mal à obtenir. Ça, c'est évident.
Merci. Hein,
pas de problème.
Merci, pas de problème, Francis Bartholomé. Merci beaucoup,
Francis.
Portons-nous tous nous bien et faisons attention à ce fichu virus.
Vous avez bien raison. Président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Merci. Jean-Luc, votre tour, c'est terminé. On sera là dimanche prochain, 7h-10h.
Ben oui.
Et dans un instant, Jean-Christophe Drouet pour les paris RMC.
François, Jean-Luc, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Tout va bien?
Vous avez parié sur quoi? Des courses d'escargot? Parce qu'avec le confinement, ça va pas être simple. Hein. Le sport, il y en a de moins en moins. Ouais, mais j'ai entendu.
Les garages sont ouverts, et bien le sport professionnel continue.
Le show must go on.
Mais bien sûr, la rencontre entre Lille et Lyon ce soir, voilà. La 9e journée de Ligue 1. Beaucoup de Ligue 1 au programme des paris RMC avec toute la Dream Team. Et évidemment, nous allons tenter comme d'habitude. Et hier, c'était plutôt prometteur de vous faire gagner un petit peu d'argent.
Allez, dans un instant, les paris RMC. Bon dimanche avec RMC. On sera là le week-end prochain. Salut à tous!
Les paris RMC, 10h-11h.